femme, mi-zouamel, mi-vieux. Bienvenue à Radio Champs-Épicelés.
Merci. Et bonsoir, bienvenue dans cette émission trop spéciale du Canu Info. On est ensemble jusqu'à 20h. Une émission trop spéciale avec une équipe trop spéciale, avec évidemment l'indispensable, la star du jeudi, Laurent.
Bonjour.
Et nos deux invités, j'en bafouille, trop spéciaux de ce soir, Lucia et Olivier, hein, on les remercie d'être là. Bonsoir. Et donc, aujourd'hui, de l'actu, hein, de la vraie quand même, des annonces et le jeu des qui c'est qu'a dit la connerie, la météo, de la surprise. Et on commence avec l'actu internationale.
Ben oui, on va commencer sérieusement quand même en ce 1er avril 2010, avec un article qu'on a récupéré sur le site du ministère palestinien de l'Intérieur, c'est pas une blague. Les fêtes des femmes et des mères passent sans que les femmes palestiniennes enfermées puissent penser en profiter. Effectivement, on rappelle qu'il y a beaucoup de prisonniers et de prisonnières enfermées dans les geôles israéliennes. Donc les années passent et les chaînes continuent de ronger leurs poignets. Et les femmes continuent de ronger leurs poignets et leurs chaînes. Elles essayent tant bien que mal de s'évader, mais c'est pas facile. Les organisations internationales qui ont fêté donc cette année la journée du 8 mars, qui est la journée de la femme, ne savent-elles pas que derrière les barreaux des prisons israéliennes, derrière l'occupation israélienne, il y a des femmes palestiniennes. Donc on a Riyad Al-Ashkar, directeur du comité de défense des captifs, qui a pondu un rapport à l'occasion de la journée mondiale des femmes sur ces prisonnières palestiniennes dans les geôles israéliennes. Donc, d'après leurs calculs, depuis 1967, à peu près 10 000 palestiniennes ont été arrêtées et mises en prison à un moment ou à un autre par l'armée d'occupation israélienne. Pendant l'intifada, donc un événement un peu plus récent, ils ont relevé à peu près 900 palestiniennes arrêtées, mises en prison. Aujourd'hui, il en reste 37 en prison encore. Voilà, il faut savoir que depuis le début de l'année, donc on est au 1er avril, ça fait à peine 3 mois, il y a déjà 3 nouvelles femmes qui ont été arrêtées et mises en prison par les Israéliens. Alors les conditions d'emprisonnement des femmes sont pas mieux que celles des hommes, voire pire, donc dans des conditions qui sont qualifiées d'infernales par ce rapport. Les occupants israéliens ne respectant dans les prisons palestiniennes, enfin pour les Palestiniens, aucune convention internationale. Elles sont privées de leurs droits les plus élémentaires, elles sont maltraitées, torturées, aussi bien physiquement que moralement, d'ailleurs souvent beaucoup plus moralement, ce qui est d'autant plus efficace d'ailleurs. Donc voilà. Au niveau médical, c'est une catastrophe, puisque plusieurs d'entre elles souffrent de maladies graves, et que dans les prisons où elles sont placées, en général, il n'y a même pas de médecin, si ce n'est un infirmier à tout casser. Donc voilà, ça c'est le ce qui est paru sur le site internet. Des réactions, alors d'abord de l'État israélien, qui annonce que tout ce communiqué est un tissu de mensonges, on en entendait pas moins. Donc Israël est rentré dans une politique de négation. Ils disent carrément qu'il n'y a jamais eu aucune prisonnière palestinienne, qu'aucune femme, ni d'ailleurs aucun être vivant, n'a été maltraité par Israël et son armée de protection, qui n'est pas une armée d'attaque. Voilà, beaucoup de mensonges. Ils auraient même, c'est une news qui court aujourd'hui, annoncé qu'en fait la guerre dans la bande de Gaza, la dernière guerre, n'a jamais eu lieu. En fait, il y a eu une espèce d'hallucination collective, ce qui aurait... Alors, ils ont trouver des sources, hein, notamment de l'eau dans la bande de Gaza, qui aurait pu entraîner cette hallucination collective et qui aurait fait dire que quelques missiles tombés à quelques endroits auraient pu ressembler à une vraie guerre, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, négation totale de tout ce qui peut arriver là-bas par l'État israélien.
Oui, et puis on a appris en Afghanistan que les soldats américains, états-uniens, allaient être privés de fast-food. C'est en effet une décision qui viendrait directement de Monsieur Obama, mais qui en tout cas a été relayée par les chefs militaires. Donc plus de Burger King, de Pizza Hut et autres fast-food sur place. Il faut dire que c'était une situation un peu irréaliste, puisque à côté des pistes d'avions militaires se trouvaient tous ces fast-food et toute une espèce de petit village, hein, où le GI pouvait compenser son éloignement de la patrie. Alors heureusement pour eux, tout ne va pas disparaître, hein, puisqu'il reste quand même le magasin de téléphone, le centre de fitness, quelques échoppes quand même, hein, pour que le GI, en ces temps difficiles, puisse survivre.
Voilà, une info intéressante et une bonne nouvelle. Il y a moins de prisonniers dans le monde aujourd'hui, puisque c'est quand même une très très bonne nouvelle, et que c'est une nouvelle de 1er mai, mais c'est une vraie nouvelle.
De 1er avril.
De 40 détenus se sont évadés d'une prison, donc bravo à eux. Big up. C'est au Yémen. En fait, vraisemblablement, il y a eu l'explosion d'une bombe. Donc, on imagine que c'est leurs potes de l'extérieur qui ont fait exploser la bombe. Ça, je pense que on n'a pas l'info, mais ça ressemble bien à ça. Et voilà, ils ont pu s'évader. Il y a eu quelques blessés quand même parmi les détenus, mais bon, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, il paraît. Enfin, 40 personnes qui d'un seul coup recouvrent la liberté. On peut dire que c'est quand même une belle preuve d'avancer dans le 21e siècle. Là, on va vers le siècle des Lumières. Si c'était pas celui d'avant, là, c'est celui qu'on a loin devant nous.
Oui, et puis une bonne nouvelle, soit pour les droits des animaux, soit pour le droit des journalistes, puisque une journaliste au Danemark qui avait été condamnée en première instance pour le meurtre de 12 poissons dans le cadre d'une émission, c'est une émission de défense des consommateurs, elle avait souhaité dans cette émission démontrer la dangerosité de certains produits comme les shampoings, et en faisant cette expérience sur les 13 poissons, il y en a 12 qui étaient morts, donc démontrant a priori la toxicité du produit. Et un vétérinaire avait porté plainte contre elle en 2004. Elle a donc été jugée, condamnée une première fois. Elle a fait appel. Heureusement pour elle, la cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuves réelles que Lisbeth Kolster ait vraiment souhaité occasionner la souffrance aux animaux. Donc voilà, on ne sait pas bien qui est gagnant dans l'affaire.
En tout cas, pas les poissons.
Non, visiblement.
Allez. Aujourd'hui, on est le jeudi 1er avril. Demain, on est le vendredi 2. Ce sont des dates importantes pour les chrétiens, puisque nous sommes le jeudi saint. Alors, je fais pas le mec qui s'y connaît, hein, parce que moi, je découvre ça en lisant les infos, parce que sinon, j'oublie toujours qu'il y a une semaine sainte, un jeudi saint, un vendredi saint, un machin saint. Mais le pape Benoît XVI, appelé aussi Benoît XIII et III, a exhorté aujourd'hui les prêtres à s'opposer à la violence. Donc c'est au cours d'une messe qui marque le début des célébrations de Pâques. Alors je cite Benoît XVI, il a dit « En tant que prêtre, nous sommes appelés, dans le compagnonnage avec Jésus-Christ, à être des hommes de paix, à nous opposer à la violence, à faire confiance au pouvoir supérieur de l'amour. L'amour, notamment avec des enfants, semble être une marque de fabrique de l'Église catholique de ces derniers temps. C'est peut-être ça qu'il avait en tête, Benoît XVI, dit très étroit. »
Oui, deux infos supplémentaires sur l'Église qui a priori a besoin de pognon. Deux slogans donc. Le premier, l'Église a aussi besoin de blé. Alors c'est en fait un slogan puisque c'est une campagne qui est pour le monde rural. Alors le beau jeu de mots, vous voyez. Et le deuxième, c'est Jésus crise. Hein. Alors ça, c'est annoncé. Ils espèrent évidemment tous ramener un petit peu du pognon pour pouvoir payer leurs curés, leurs églises et tout le fonctionnement. Voilà, ils ont fait des 4x3. On espère pour eux que ça va pas trop marcher. Et donc, aujourd'hui, notre grand jeu radiophonique, qui c'est qu'a dit la connerie? Nous sommes aujourd'hui donc dans le charmant village de la Croix-Rousse, et nous sommes avec deux nouveaux candidats, Lucia.
Bonsoir.
Et Olivier.
Bonsoir.
Et bravo, on les applaudit bien fort. Et alors, donc, ce jeu de qui c'est qu'a dit la connerie, ça commence avec une petite question. Il faut donc deviner de qui sont extraits ces propos. La première, qui donc a retourné sa veste, est passé du rose bonbon au bleu électrique, après avoir pourtant écrit dans un livre « La France est-elle prête à voter en 2007 pour un néoconservateur américain à passeport français ?» Alors, attention.
Éric Besson.
Ouais, bravo, bravo. Premier point. Qui a dit « La modernisation de notre système pénitentiaire est en marche. Le contrat que nous allons signer s'inscrit dans cette politique. Il permet de concevoir la prison de demain. Qui est cette femme ?» Qui aime les bijoux ?
Oh, Rachida Dati.
Ah oui, les bijoux, ça marche toujours.
Non, mais ils sont super forts. Vous avez regardé les réponses, là. Il y a un truc, là.
Ont-ils acheté le jury ? Ont-ils acheté le jury ? Ah ah ! Environnement maintenant. Qui a dit, en parlant du Grenelle et l'environnement, qu'il serait l'acte fondateur d'un New Deal écologique en France, en Europe et dans le monde ? Qui a vu aussi grand, aussi large ?
Nicolas Hulot ?
Ah, presque.
Sarkozy.
Eh oui, le petit Nicolas. Alors attention, là, on descend bien bas. Qui a dit, on ne fait pas d'un âne un cheval de course ? Il a beau être fils de, il est très bon, bluffant même. Et cette personne parlait du fils de Monsieur Sarkozy.
Jean.
Jean, effectivement, c'est un proche prêt à tout. Allez, je botte.
Besson.
Eh non.
Non, je sais pas. C'est toujours ça.
Allez, un Patrick, je vous aide. Un Patrick.
Ah, Balkany.
Oui, oui. On le connaît bien ici, on en parle souvent de ce monsieur. Et alors, attention. Ouais, hein, qui a dit les pauvres en France, c'est des favorisés par rapport à la moitié de l'humanité. Presque. Hein, il aurait pu, c'est vrai. Je vous aide. Hein, il est plutôt censé être de gauche. Il a fait parler de lui pendant les régionales.
Georges Fraîche.
Eh oui, bravo, bravo, Georges Fraîche, l'inimitable. Ah. Celle-là, une spéciale écolo encore, qui a dit, pour faire face à la hausse du prix du pétrole, je conseille aux Français de faire du vélo. Une dame qui gère pas mal l'économie. Alors attention. Et chez vous là, nos auditeurs, ils vous écoutent. Peut-être ils ont la réponse, eux aussi. Attention, le temps se rapproche. Une dame, Christine.
Lagarde.
Hey, yeah, bravo. C'est pas fait. Alors, qui a dit, une phrase absolument magnifique de la grande philosophie, mes cheveux raccourcissent au fur et à mesure que mon expérience croît. Une dame ici que j'aime tout particulièrement, elle a laissé une forte empreinte sur les travailleurs de la culture. Alors, attention. Ah non, c'est vrai que Madame Boutin a changé de couleur, de coupe tout au long de son parcours politique.
Christine Albanel.
Eh oui, bravo. Hein. On se souvient d'elle à Versailles, elle a fait du bon boulot. Hein. Ah, alors c'est là une de mes préférées. Eh oui, heureusement qu'on l'a, Christine. Toujours une femme qui a bien pu dire, peut-être, ah là, je vous ai un peu aidé, j'ai donné un petit indice déjà, qui a dit « Ségolène Royal aura la place qu'elle souhaite dans le PS, même si la plupart sont déjà occupés. »
Une femme ?
Eh oui. Attention.
J'aurais dit Hollande, mais bon.
Ah oui, c'est vrai que son mari, son ex...
Martine Aubry.
Eh oui, forcément, entre femmes, on s'enfonce, c'est tellement plus simple. Qui a dit aussi cette, franchement, belle phrase qui signifie à la fois tout et rien ? Le chef de l'État appelle parfois Brice Hortefeux pour ne rien lui dire, c'est la preuve de la qualité de leur relation. Ah, lui aussi c'est un lèche-botte, on peut le dire.
Ah, il châtait.
Eh oui, tout de suite le lèche-botte, ça sort tout seul. Bravo. Ah, une phrase dont on a pu beaucoup entendre des échos dans les médias il y a quelque temps. Qui a dit « Moi, ce que je veux du jeune musulman quand il est français, c'est qu'il aime son pays, c'est qu'il trouve un travail, c'est qu'il ne parle le verlan, c'est qu'il ne parle pas le verlan, qu'il ne mette pas sa casquette à l'envers. » Attention, qui a bien pu dire ça ?
Hortefeux.
Ah oui, c'est et non, pourquoi ? C'est pas lui. Il aurait pu, c'est vrai qu'il en a dit. Et on pense pas souvent à cette femme, hein, mais pourtant elle en sort. Hein.
Boutin.
Et non, c'est toujours pas Madame Boutin.
Elle gagne pas, elle. Pourquoi elle gagne pas ?
Elle gagne pas. Non. Alors je vous aide.
Nadine Morano.
Bravo. Et oui, une phrase, on s'en souvient, qui avait quand même un petit peu marqué, surtout l'histoire de la casquette. Qui a dit, attention, c'est un peu difficile, je suis l'homme le plus honnête du monde.
Charles Pasqua.
Ah, ça aurait pu, et non, c'était presque ça, mais non. Et ouais. On a déjà parlé de lui il y a quelques instants.
Balkany.
Et oui, toujours, c'est lui qu'on connaît bien dans les affaires judiciaires aussi. Alors pour l'instant, vous avez fait un chemin...
C'est pas mal, ils ont presque tout juste à deux là.
Pas mal hein, quand même. Alors maintenant, il faut savoir si vous voulez... il se serre la main, oui, hein, il faut que nos éditeurs le sachent, il se serre la main, se congratule chaleureusement.
Pour ceux qui n'ont pas l'image...
Alors, est-ce que vous tentez la double connerie? Allez, on y va, la connerie. Oui, ouais, bravo! Allez. Alors.
Il gagne quoi dans le jeu?
Le panier croix-roussien.
D'accord.
Plein de belles choses dedans.
Alors, la double connerie.
Alors, attention, parce que ce n'est pas un politique, mais il est très très proche de Monsieur Sarkozy, qui a bien pu écrire dans sa biographie parue en 2000, tous les hommes sont misogynes, sauf les tapettes.
C'est pas Zemmour qui a publié une biographie en 2000?
Ah, non. Zemmour, il aurait pu, mais non, je vous aide, un sportif, un costaud.
David Douillet?
Eh oui. On a cru qu'à un moment il serait notre ministre des Sports, mais non. Nous y avons échappé. Et alors maintenant, est-ce que vous tentez la super connerie? Allez. On la tente, allez, la connerie, bravo. Alors. Ouais. Attention, c'est donc la finale et c'est une question, il faut le dire, difficile. Qui a dit il y a pire que le stress au travail, il y a le stress au chômage. Alors attention, je vous laisse un petit peu réfléchir.
Et là, nous ne vous aiderons pas.
Non, c'est la grande finale.
Le panier croix-roussien est en jeu.
Et oui, panier est plein de provisions du terroir, hein, croix-roussien. Attention, ne nous trompons pas.
Stress au travail, pire, il y a le
stress. Trop tard.
Bon ben voilà, c'est trop tard.
C'était Monsieur Xavier Darcos, et oui, c'est vrai qu'ils sont nombreux
à pouvoir.
Alors bon, comme on est quand même pas méchants, nous allons quand même vous offrir ce beau panier plein de provisions du terroir croix-roussien. Alors, il faudra évidemment revenir pour en profiter. Hein. Mais nous sommes très contents de vous avoir eu ici. Et donc, à bientôt pour un nouveau jeu du Qui c'est qu'a dit la connerie.
Voilà donc, toujours sur le Canyon Info de ce 1er avril 2010, après qui a dit la connerie, qui c'est qui fume, un petit mot sur la Californie, donc un référendum est en prévision pour la légalisation de la marijuana en novembre 2010, alors que dans de nombreux espaces publics aujourd'hui aux États-Unis et même à San Francisco, il est interdit tout bonnement de fumer une cigarette normale, classique, la marijuana se développe à travers les autorisations qui existent aujourd'hui en Californie. Alors, sous l'impulsion de Richard Lee, donc c'est un activiste de la légalisation de la marijuana, une pétition a déjà récolté 430 000 signatures en faveur du référendum qui serait mis en place donc lors des prochaines élections qui auraient lieu au mois de novembre. L'idée de Richard Lee, qui est très connu aux États-Unis pour ses batailles anti-prohibitionnistes, il rappelle que c'est il y a un gros intérêt économique à faire ça, puisqu'il dit, alors que ça rigole beaucoup dans les studios, que mon info est sérieuse. Voilà, non mais ils sont insortables. Donc voilà, donc dans ses arguments pro-légalisation, il parle du poids des taxes et donc il a calculé que ça pouvait faire rentrer 1,4 milliard de dollars de taxes en Californie. Alors, faut savoir que la Californie a beaucoup besoin d'argent, donc ce serait une solution. D'ailleurs, il y avait un économiste, Jeffrey Myron, de l'université de Harvard, qui avait calculé sur l'ensemble des États-Unis, si jamais il légalisait la marijuana, ça faisait rentrer 13 milliards de taxes dans les États, dans l'État fédéral. Donc, c'était pas mal. Hein. Donc, il y a un vrai poids économique qui fait que, il y a l'idée de se faire ce référendum en novembre 2010. Notons que le dernier sondage en date dans ce coin là du monde, 56% des Californiens seraient favorables à la légalisation. Alors en France, on se pose la question, qu'en est-il ? Alors je suis allé chercher un peu sur les sites de tout le monde. Alors il y a quelques années, les libéraux, notamment Madeleine, avaient parlé de la légalisation, puisque en tant que libéraux, ça leur paraissait évident que ce soit légalisé pour qu'il y ait des gens qui gagnent de l'argent dessus. Hein, on est capitaliste jusqu'au bout. Aujourd'hui, il n'y a rien. Je suis allé voir sur le site de Jean-Louis Borloo. JLB.com. Alors lui, il a lancé une pétition pour la légalisation de l'alcool au volant, avec les mêmes arguments. C'est que l'alcool, toutes les politiques restrictives sur l'alcool font baisser le chiffre d'affaires de l'alcool et donc baisser les taxes qui rentrent dans l'État. Donc il faut qu'il y ait plus d'alcool au volant possible. Bon, Nicolas Hess, il a lancé une pétition pour la légalisation totale de l'Exomil. Mais ça, on sait qu'il y a des problèmes d'approvisionnement. Hein. Des fois, il est encore un peu énervé, le petit Nicolas. Pour le cannabis, c'est mal parti pour la France quand même, grosso modo. Il faut savoir quand même que c'est un truc très utile pour les hommes politiques. Non pas qu'ils en consomment, hein, ça, ou peut-être, mais on le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que c'est très pratique, juste avant une élection ou juste après qu'on ait perdu une élection, d'envoyer les flics faire une descente chez les trafiquants, parce qu'il y a tellement de gens qui consomment que les flics savent, grosso modo, qui vend du shit ou qui n'en vend pas. Et donc, ça permet de passer devant les médias le lendemain en disant, regardez, on a fait arrêter des dealers, en mettant le mot dealer très très fort en avant. Donc voilà, donc a priori, la France a encore un petit peu de retard sur le développement du cannabis dans le sens légal.
Oui, aux États-Unis, toujours, les enfants ont eu une mauvaise surprise en regardant leur dessin animé favori à la télévision, puisque les programmes érotiques de Playboy ont été accidentellement diffusés, donc mardi 16 mars, sur deux chaînes de la Time Warner Cable. Ils se sont dit sincèrement désolés. Hein? 2 heures hein, quand même de programme érotique de 6h15 à 8h15 le matin au petit déjeuner, c'est toujours sympathique.
Les enfants auront appris comment on fait les bébés.
Et voilà, donc ça se passait particulièrement donc sur un problème d'aiguillage qui s'est situé donc en Caroline du Nord.
Donc voilà, on va faire un petit break en remerciant nos invités d'être venus faire ce petit jeu.
Ben merci à vous.
Eh ben, merci. C'était très bien.
Merci
en
pour
plus,
le panier.
Oui, quand même, entre nous pouvons nous faire quelques cadeaux. Ouais.
Et puis tout de suite, un petit reportage sur un événement qui est arrivé sur le Canu Info, ici présent, il y a quelques mois. Et on a récupéré le reportage. Tout est vrai.
Enquête radiophonique. Les détectives de la rue du Sanglant Bender sont confrontés à des événements inexplicables survenus dans les locaux qu'ils occupent dans la rue du Sanglant Bender. Parmi ces faits étranges, le kidnapping de la voix d'un des animateurs de Radio Canu. Sanglant Bender, la voix kidnappée, une enquête non résolue de la voix off. Tout a commencé fin novembre, comme tous les jeudis, à 19h sur le 102.2. C'est le Canu Info.
Boum, il est 19h passé de 2 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios.
Des informations anticapitalistes animées par celui qu'on appelle le Michel Drucker de Radio Canu.
Et une fois n'est pas coutume, nous allons
une
commencer
une des voix
par
emblématiques de la plus rebelle des radios.
Plus rebelle des radio stations.
Une des voix qui a fait le succès du 102.2. Mais le lendemain, à la même heure, tout bascule.
Voilà, il est 19h passé de 2 minutes à l'antenne de la plus rebelle des radios, il est l'heure du Canu Info.
Alors qu'on pensait les voix de Radio Canu impénétrables.
Ah, la voix, elle a disparu.
L'animateur s'est fait kidnapper sa voix.
Oui, alors c'est...
Que s'est-il passé?
Je voulais juste rappeler que les mouvements sociaux en France existent.
Est-ce que c'est Patrick Bruel qui est rentré dans le corps de l'animateur de Canu ou quelqu'un d'autre?
Un espèce de monstre.
Est-ce que sa voix a disparu à force de parler tout seul à la radio?
Son état mental est très dégradé, vous imaginez, quelqu'un qui est depuis plusieurs années tout seul tous les jours, ça ne doit pas être facile à vivre.
Est-ce que ce sont des opposants politiques qui ont kidnappé la voix?
C'est un vrai sens politique de faire disparaître ma voix.
Est-ce que ce sont les radios concurrentes qui ont voulu saboter les fortes audiences réalisées par Radio Canu à l'heure des infos?
Alors, c'est pas le premier accident qui arrive dans ce genre de structure. Il y en a qui ont été très médiatisés.
Est-ce l'animateur lui-même qui a voulu se faire une voix blues et sexy pour séduire les auditrices?
Voilà.
Est-ce qu'il a été victime d'une sorte de mue à l'envers?
Je crois que ce sera la fin.
On ne le sait pas. Et on ne le saura sans doute jamais.
Donc, comme quoi, on comprend pas toujours tout.
Sanglant Bender, la voix kidnappée, une enquête non résolue de la voix off.
Et je crois que c'est la fin du Canu Info, parce que là, la voix, elle est disparue.
C'était la voix kidnappée, une enquête non résolue des détectives du Sanglant Bender.
La voix, elle est disparue.
Le Sanglant Bender, un feuilleton radiophonique de quartier, tous les lundis dans Méga Combi, tous les dimanches dans Pente Dimanche.
Actualité internationale toujours en Corée du Sud cette fois. Une information qui a l'air tout à fait délirante mais qui est bien vraie. Les piétons doivent maintenant marcher à droite. Ça fait 5 mois que ça dure et c'est le bazar dans la rue, les escalateurs et les escaliers. Le gouvernement sud-coréen demande en effet aux piétons de marcher à droite dans tous les lieux publics et non plus à gauche comme cela se fait depuis plus de 90 ans. Pourquoi jusqu'à présent on marchait à gauche en Corée du Sud? C'est une chose qui reste en fait de la colonisation japonaise qu'a subi la Corée. Et donc, à la fois pour casser ce symbole et puis aussi, soi-disant pour réduire le nombre d'accidents, 90% des Sud-Coréens étant droitiers, il y a donc eu un changement radical. Alors, ce qui fait que c'est un grand bazar, paraît-il, dans les escaliers, puisque par exemple, les gens ayant pris l'habitude de mettre une canne dans une main et de se tenir à la rampe de l'autre, tout est transformé. Il y a un mécontentement croissant dans la population, hein, mais le gouvernement, il tient fermement à tenir encore et quoi qu'il arrive cette nouvelle mesure. Et les autorités d'ailleurs sortent tout un tas de mesures, d'études qui doivent prouver que c'est une bonne chose et que cela doit perdurer. Et puis une chose qui s'est passée en Géorgie, et ça a été une blague géorgienne, après les blagues belges, une chaîne privée a semé la panique en Géorgie le 13 mars en diffusant donc volontairement un faux bulletin d'information assurant qu'une invasion du pays par les Russes était en cours, que les tanks avaient déjà franchi la frontière, que la Russie avait bombardé les ports et les aéroports. Alors évidemment vous doutez bien que en Ossétie du Sud où la Russie a malheureusement fait un certain nombre de combats et a laissé des traces, ça a été la panique générale, les gens se sont rués dans les magasins comme pendant la guerre de 2008 et il faut savoir que c'est les images qui ont été diffusées pendant ce faux reportage étaient effectivement des images de la guerre de 2008. Le réseau téléphonique mobile a été surchargé, enfin, tout s'est arrêté d'un coup. Et c'est vrai que ça nous rappelle un peu cette blague de la télévision belge, hein, en 2006, nous expliquant qu'il y avait eu une scission en Belgique définitive. Et puis, en Belgique, justement, les signes extérieurs de richesse passent mal à Charleroi. Effectivement, un tribunal civil de Charleroi a estimé qu'il n'était peut-être pas raisonnable d'afficher ostensiblement sa prospérité dans une région sinistrée comme Charleroi. Hein, Charleroi, c'est au centre de la Belgique. Alors, c'était quoi cette affaire? Il faut savoir que tout a commencé en 98. Un riche homme d'affaires profite de la prime accordée, une prime régionale accordée à l'installation donc dans cette région sinistrée, 6000 euros hein, quand même, s'installe donc dans une maison, la rénove, et puis dès 2001, il subit un certain nombre de cambriolages, il est même un jour menacé avec ses armes à feu, il est kidnappé en pyjama à bord de sa Jaguar, puis abandonné tout seul dans une pauvre zone industrielle, sa famille décide alors de déménager, parce que ça suffit, hein. Jusque du coup, ben les autorités locales demandent le remboursement de la prime puisqu'elle imposait de rester à Charleroi pendant un certain nombre de temps, ce que la famille n'a pas fait. Et le juge, ben il a suivi les autorités locales, hein, puisque il a estimé qu'il n'était peut-être pas raisonnable d'attirer l'attention sur soi en circulant en Jaguar et en vivant dans une belle maison, en affichant ostensiblement sa prospérité ou une certaine prospérité dans une région sinistrée comme celle de Charleroi. Voilà. Et ben moi j'ai trouvé que c'était une bonne info.
Voilà, il faut avoir honte d'être riche.
Voilà.
Ouais. Allez, on passe aux actualités nationales avec un petit mot sur Éric Besson tout de suite. Donc face aux critiques des associations et notamment de la gauche, Éric Besson le ministre des expulsions et des rafles de sans-papiers, se défend d'avoir préparé un projet de loi sur l'immigration qui soit liberticide, le jugeant juste, ferme, mais juste. Alors ça, c'est ses propos d'aujourd'hui. Donc le ministre des expulsions a également nié toute volonté politique dans l'évacuation aujourd'hui même, au lendemain de la présentation de ce texte en Conseil des ministres, d'un immeuble parisien occupé par environ 200 sans-papiers. Je cite Monsieur Besson, je n'ai pas piloté cette opération, elle relève de la préfecture de police, même si j'en suis solidaire, a-t-il dit lors d'une conférence de presse. Il semble donc que seul le hasard soit responsable de l'intervention policière qui n'obéisse à personne.
Il y a toujours un gros nas pour te pourrir la vie.
Annonce commerciale, vente de bottes, droit dedans, inspiration Goebbels garantie. Trois paires achetées, une paire de talonnettes offerte. Marché aux puces de l'Élysée, stand du ministère de la France occupée, à l'Étroit.
Voilà, un petit mot maintenant sur Frédéric Mitterrand, qu'on a surpris hier à défendre le heavy metal. Yes! Donc ça faisait plaisir, donc c'était toujours à l'occasion de l'éternel débat sur le festival Hellfest, qui a lieu à Clisson, en Loire-Atlantique. Donc le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, est venu calmer les esprits, alors que ce festival est attaqué par deux personnalités relayées par les médias qui sont bien contents d'avoir un truc aussi drôle à se mettre sous la dent. Donc d'abord c'est Christine Boutin qui a essayé de faire interdire l'événement, ainsi que Philippe Devilliers qui a qualifié l'événement de sataniste. Faut dire que Hellfest en anglais c'est dire fête de l'enfer, ça fait peur, et que sur l'affiche le monsieur il a des cornes, on dirait le diable. Donc voilà, alors notre habituel député préféré, hein, parce que je pense qu'on peut le dire, on n'aime pas la démocratie représentative, mais Patrick Roy, c'est notre préféré dans ce système pourri.
Ah, puis il a des costumes à chaque fois. Ouais.
Là, il était rouge.
Les vidéos, rouge, blanc, il varie. Hein.
Voilà, donc il a interpellé, alors c'est un brouhaha énorme, d'ailleurs, si vous regardez les images, c'est très intéressant de voir que ces députés sont tous des gros connards, mal élevés. Ce sont pas des êtres humains comme nous, parce que nous, là, dans le studio, on est deux. Quand on parle, on s'insulte pas, on s'écoute. Là-bas, c'est une espèce de cacophonie incroyable.
Avec des sifflets.
Avec des sifflets.
C'est incroyable.
C'est une honte totale. Moi, j'ai honte. Si vous votez, je pense que vous devriez avoir honte.
C'est vrai que
d'avoir
les députés,
voté pour ces gens-là. Quoi.
Les députés pensent que c'est un métier. Donc, dès que quelqu'un s'adresse à l'Assemblée en étant peut-être pas tout à fait au point au niveau de sa propagande verbale et que ça sort pas tout seul, on entend aussi des petites méchancetés quand on écoute bien à l'arrière. Et si on de rabaisser, et en général, c'est les femmes qui prennent le plus.
Non, c'est vraiment atroce. C'est la honte du pays. Mais donc Patrick Roy a surfé au-dessus de ce brouhaha, de ses insultes, de ses colibettes, tout ça. Et il a reparlé donc du heavy metal puisqu'il les connaît bien. Son fils, il écoute Gojira, Metallica et les autres. Il cite chaque fois des noms, ce qui est drôle parce que je pense que tout le monde est perdu.
Il cite souvent les mêmes quand même.
Oui, bah Gojira par exemple, il l'avait déjà cité. Mais il faut dire que je pense que dans les députés, on est à peu près au degré zéro de la culture. Donc si on leur demande qui est Dorothée, ils sauront dire qui est Dorothée. Par contre, si on leur demande qui est Gojira, ils sauront pas dire. Alors après, laissez-moi préférer Gojira à Dorothée, mais il me semble qu'effectivement, il y a un problème dans l'Assemblée, non seulement d'éducation, mais de culture. Ceci dit, Frédéric Mitterrand a joué le jeu, qui est son rôle de ministre de la Culture, pour une fois, il a dit qu'il fallait arrêter ça, y avait pas de Lucifer, il y avait rien de tout ça dans le festival, la diversité culturelle, ça faisait partie de la richesse du pays, ça exclut pas les préférences individuelles, mais, dit-il, ça impose le respect, la curiosité, l'échange et le dialogue. Donc un discours plutôt rassembleur de Monsieur Frédéric Mitterrand, qui a eu du mal aussi à surnager au-dessus de l'imbécilité des autres. Ce qu'on notera quand même, que c'est nostalgique, notamment catholiques de l'Inquisition, sont encore bien vivants, malheureusement, dans ce pays. On imagine bien tous ces religieux faire interdire la musique, hein, ça arrive dans d'autres pays. Que Christine Boutin et Philippe Devilliers essayent de faire interdire une certaine musique, c'est pas surprenant. On imagine que dans leur rêve, il n'y aurait que de la musique religieuse ou de la musique militaire, hein, parce qu'ils aiment les deux, faut quand même savoir ça. Voilà. Ensuite, c'est tout ce que je voulais dire sur ce ramassis d'imbéciles religieux qui n'ont pas compris que finalement le décorum pseudo-sataniste du heavy metal ou du metal tout court, c'était du théâtre, C'était voilà, juste comme ça, c'est tout de l'enfer de Pacoutille. Y a rien de religieux là derrière, je peux vous le dire, hein, moi qui suis allé au Hellfest l'année dernière, j'ai pas beaucoup vu de religieux. Par contre il paraît, j'ai raté qu'à l'entrée, le premier jour, ils jetaient de l'eau bénite sur les festivaliers qui arrivaient. Donc voilà, a priori les festivaliers ont pas été brûlés par l'eau bénite, donc ils n'étaient pas issus de l'enfer. Voilà, je pense que ça les a peut-être calmés, ces intégristes fous.
Annonce emploi. France Inter cherche journaliste peu compétent, non syndiqué pour son service propagande. Contact Philippe Val, bureau de l'Élysée.
Voilà, on continue dans les infos nationales avec un petit mot de Continental. Donc Continental, si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas de voiture, vous savez pas bien ce que c'est, mais pour les autres, c'est un fabricant de pneus automobiles qui est un peu un fabricant qui licencie en France. Donc les Conti, comme on les appelle aujourd'hui, donc ces ouvriers de Continental qui se sont rebellés contre les fermetures d'usines. Là, on peut dire que les 1120 salariés de l'usine de Clairvaux sont énervés. Alors ils ont appelé la ministre du déficit, là, qui est Christine Lagarde, pour lui dire de réagir, de faire quelque chose, que la multinationale se fout de leur gueule. Faut dire qu'elle vient d'adresser à 600 licenciés de cette usine une proposition de reclassement dans une de ses filiales, qui est à Bizerte, en Tunisie, et le salaire proposé est de 137 euros par mois. Moi, je trouve ça assez incroyable, hein, que il faut dire que la loi, elle oblige aux propositions de reclassement. Donc, ils ont proposé une proposition de reclassement. Il faut savoir que le salaire minimum en France est beaucoup plus élevé. Voilà. Mais, à travers les discours de Xavier Darcos, ministre du chômage, on vous rappelle qu'en France, on ne peut pas refuser des offres d'emploi aujourd'hui, hein. On a droit à 3, je crois. Et à la troisième, si vous refusez, vous êtes viré. Donc, ça, c'en est une d'offre d'emploi, les gars. Donc, faites attention. Bientôt, vous ne pourrez plus refuser d'aller travailler en Roumanie pour 25 euros par mois ou d'aller vous prostituer dans un bordel en Allemagne pour un salaire certes plus important, mais vous avez peut-être pas envie de faire ce métier-là.
Ah, il y en a un, il avait trouvé un emploi sans passer par le Pôle emploi. Ça faisait 5 ans qu'il se faisait passer pour un policier, autant auprès de sa famille que dans son quotidien. Il a été arrêté alors qu'il était lui-même en train de contrôler des gens. Il avait tout ce qu'il fallait sur lui. Il était habillé d'un blouson siglé police avec le grade de capitaine. Il avait un brassard de police. On lui a découvert une matraque coudée, une matraque télescopique, une arme de poing, une fausse carte de police, deux chargeurs vides, deux bombes lacrymogènes, une paire de menottes et une médaille du raid. Donc voilà, il y en a qui rêvent de devenir flics et qui sont prêts à tout. Et pour ça, il avait même cousu ses petits habits. C'est lui qui s'était fait son petit uniforme. Par contre, tout le reste avait été haché, évidemment, sur Internet ou dans des armureries. Il a été pour l'instant remis en liberté, mais il va subir une expertise psychiatrique. Et puis, police toujours, dans le Rhône, rien ne va plus, puisqu'à Villefranche-sur-Saône, la route était limitée à 70 km/h et les agents de police ont activé leur radar à 50 km/h, ce qui fait que des gens ont donc reçu une prune pour quelque chose qu'ils n'avaient pas commis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les gendarmes lyonnais qui étaient censés être à ce poste à ce moment-là, mais la gendarmerie dit que c'est pas elle, c'est les autres, puisque Villefranche-sur-Saône, c'est sous contrôle policier. Donc on ne sait pas bien finalement qui va être fautif de l'affaire, on espère juste que le monsieur a pu être remboursé. Et puis, police toujours, il faut savoir que les animaux en veulent aussi aux uniformes, puisqu'un pitbull aux États-Unis a été relâché après 2 semaines de détention. Il avait attaqué le pare-choc d'une bagnole de flic. Pourtant, sa maîtresse s'assure qu'il n'avait jamais été violent auparavant. Bon, il semblerait qu'il ait eu quelques coups de folie à voir un uniforme. Et puis, toujours police, en Belgique, nous y revenons, deux policiers qui ont fait le tour de la toile, vous l'avez peut-être vu cette vidéo, où l'on voit deux policiers sous, mais complètement sous, en marge du carnaval qui se déroulait dans la ville près de Spa. Donc c'est dans l'est de la Belgique. Évidemment, ça a fait scandale puisque la vidéo était intitulée « Police belge bourrée au carnaval ». Ça a été vu des dizaines de milliers de fois sur YouTube, évidemment. Il y a une petite enquête en cours puisque à la base, ces policiers étaient là pour maintenir l'ordre. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en vacances ou en train de se balader. Donc ça fait mauvais genre. Et puis, peut-être une dernière info sur la police parce que de partout, elle fait vraiment parler d'elle. En Grande-Bretagne, la police britannique, elle a pas loupé son coup puisque lors d'une descente où elle pensait trouver de la drogue, elle a malencontreusement, comme on dit, fracturé une mauvaise porte. La famille, évidemment, était un petit peu surprise. Et donc, pour se faire pardonner, ils auraient acheté un bouquet de fleurs et une bouteille de bière d'un montant, comme nous le dit le Daily Telegraph, de moins de 2 livres, ce qui est absolument ridicule. Voilà, donc on ne sait pas s'ils ont remis la pente droite, mais c'est ce genre de pratique qui, a priori, n'arrête jamais la police.
C'est bio la vie, c'est formidable en tant que produit.
On va parler d'un peu d'environnement et d'écologie avec un petit mot adressé au ministre de la disparition de la recherche publique qu'on appelle Valérie Pécresse. Donc 400 chercheurs à peu près lui ont demandé de s'exprimer publiquement et d'exprimer publiquement sa confiance dans les travaux sur le climat face aux affirmations péremptoires de Claude Allègre sur le sujet. Depuis plusieurs mois, des scientifiques reconnus dans les domaines respectifs dans leur domaine respectif, dénigrent les sciences du climat et l'organisation de l'expertise internationale, criant à l'imposture scientifique, affirment ces chercheurs dans ce courrier. Ces accusations ou affirmations péremptoires ne passent que par le filtre des médias et pas par le filtre traditionnel des publications scientifiques, ce qui fait que tout ce qu'ils disent n'est validé par personne et on a d'énormes mensonges qui arrivent jusqu'aux médias qui n'ont pas les connaissances scientifiques pour les remettre en cause, notamment quand c'est leur ami, comme l'est Claude Allègre, qui vient s'exprimer. Claude Allègre oublie d'ailleurs, au passage, les principes de base de l'éthique scientifique, rompant vraisemblablement et en gros le pacte moral qui lie chaque scientifique avec la société. Donc ils demandent alors ils ont envoyé un courrier donc à la ministre de la disparition de la recherche publique, Valérie Pécresse, avec toutes les erreurs et tous les mensonges qu'il y a dans le livre de l'ancien ministre de l'éducation, Claude Allègre. Donc voilà. Alors pour info, on a quand même récupéré des trucs sur Claude Allègre. Il y a pas mal d'infos qui et notamment d'accusations qui tournent sur Claude Allègre, qui est qualifié par certains de militants terroristes pollueurs actifs. En fait, il ferait partie...
Me le redire là, de quoi ouais. Il a accusé de plus
de militants terroristes pollueurs actifs.
Ah, c'est pas mal.
En fait, il ferait partie d'une organisation terroriste internationale qui est très peu connue et qui médiatise pas ses coups, dont l'objectif est de montrer que la pollution n'est pas un problème. Alors, ils ont une technique simple pour montrer que la pollution n'est pas un problème. Il provoque un accident industriel, une petite catastrophe, un accident chimique. Et donc, il laisse faire les médias, le jeu du machin, c'est pas bien, ça pollue. Puis, ils reviennent 6 mois après et ils montrent, bah, regardez, finalement, il n'y a plus de traces, donc c'était pas dangereux. Donc, ils ont fait, par exemple, ils seraient responsables du naufrage du pétrolier Erika. Aujourd'hui, il n'y a plus de traces. Il serait responsable du sabotage de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Aujourd'hui, ils disent sur leur site internet, qui est pas facile à trouver mais qu'on trouve, bah regardez, on peut vivre en Ukraine, on peut vivre en Bretagne, la pollution a disparu. Donc voilà, c'est ce groupe terroriste qui pollue et qui démontre après que la pollution a disparu. Il ferait partie de ça, Claude Allègre. C'est les allégations qui tournent.
Annonce officielle, Monsieur Borloo, ministre du Grenello compatible, sera joignable du 1er juin au 1er septembre à la buvette de Palavas-les-Flots. Merci d'amener vos glaçons.
Voilà. Autre chose, justement toujours en lien avec la pollution, avec 242 763 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves a augmenté en mars de 12,8% en comparaison de l'année dernière. Donc voilà, sur depuis le début de l'année, une hausse de 17%, ils se vendent de plus en plus de voitures. C'est le comité, le CCFA, le comité des constructeurs français automobiles, qui l'annonce. Ils viennent d'ailleurs de lancer une nouvelle campagne publicitaire avec comme slogan « Un bon piéton est un piéton assis dans sa voiture ».
C'est pas mal.
Ouais.
Alors moi j'avais trouvé quelqu'un qui fait tout pour sauver la planète. Il s'agit d'un homme encore en Grande-Bretagne qui a perdu sa Lamborghini. Déjà, ça commence bien. Il faut savoir qu'il était en état d'ivresse et qu'il l'a oublié. Il savait plus où il était garé. La voiture, elle est quand même estimée à 145 000 euros. Vous avez bien entendu. Hein, il y en a qui s'achètent deux logements avec ça dans des endroits. Cet homme donc de 35 ans, il est jeune. Hein, en plus, pour avoir une telle bagnole, avait en fait emprunté la voiture de luxe. Hein, et puis, il s'en était mis plein le gosier, comme on dit. Et au lieu de dire tout simplement qu'il savait plus ce qu'il en avait fait, il a rapporté qu'elle avait disparu à sa compagnie d'assurance. Alors il faut savoir que mentir à sa compagnie d'assurance ne paye pas, puisque la police lui est tombée sur le dos. Pourtant, les écologistes étaient contents, enfin une voiture qui pollue de moins.
Voilà. Une info toujours sur la pollution et sur les pollens, puisque ça a commencé, hein, les arbres ont commencé à émettre leur pollen et on commence à avoir le nez pris. Donc il y a un site qui s'appelle pollens.fr, tout simplement, et qui donne des conseils pour lutter contre nos maladies respiratoires liées au pollen. Alors ils nous disent, il y a des choses pas mal, hein, protégez-vous les yeux avec des lunettes de soleil. Essayez le plus possible de ne pas vous frotter les yeux. Abstenez-vous de tondre vous-même votre pelouse. On vous rassure, on habite en ville, on n'a pas de pelouse. Aérez toutes les pièces à vivre le matin plutôt que l'après-midi, avant que les pollens sortent. Si vous jardinez, portez un masque. Ah, moi, j'ai jamais vu quelqu'un jardiner avec un masque, à part les paysans qui mettent des produits chimiques et toxiques.
Je croyais qu'on avait plus le droit de se masquer maintenant.
Oui, mais bon, ils sont pas au courant. Bien entendu, évitez de fumer, puisqu'il paraît que c'est pas bon pour l'asthme. En voiture, pensez à bien fermer les fenêtres. Donc on rappelle que à peu près 30% de l'asthme des enfants est dû aux voitures, donc plutôt que d'arrêter les voitures ou fermer les fenêtres des voitures, ça ira mieux. Évitez les piscines chlorées. Alors là, un truc, si vous connaissez une piscine où il n'y a pas de chlore, vous m'appelez tout de suite, mais moi j'en connais pas.
Il y en a une en France qui d'ailleurs fait débat, je me souviens plus dans quelle ville elle est.
Une piscine écologique, ouais.
Voilà, mais une partie des élus voudrait la faire fermer, puisque soi-disant, elle permettrait de répandre les bactéries, ça fait voilà toujours des arguments qui font bien rigoler, quoi.
Alors, comme le climat, certains scientifiques remettent en cause l'asthme et les pollens. Alors, non pas leur existence, mais leur manière de notre manière de lutter contre, en disant qu'il faut se protéger, il faut faire attention, il faut prendre des médicaments, tout ça. Donc c'est des militants qui sont plutôt pro-pollution, d'ailleurs, aussi incroyable que ça puisse paraître, soutenus d'ailleurs en partie par Claude Allègre, hein, qui a déjà manifesté avec eux. Eux, ils ont une proposition assez efficace contre les pollens, notamment en ville. Ils disent, en fait, les pollens sont liés aux arbres. Donc, la solution est assez simple. Il suffit de couper les arbres, puisque d'après Claude Allègre et ses amis, les arbres sont inutiles dans une société, dans une cité moderne. Donc, ça sert à rien. Coupons-les. Donc, voilà, peut-être une solution à réfléchir. Coupons tous les arbres de la terre. D'ailleurs, Claude Allègre s'est exprimé avec d'autres qu'on n'avait plus besoin d'arbres quasiment maintenant, puisque il y aurait bientôt plus besoin de papier, hein, puisque le livre, on en parlera tout à l'heure, le livre est passé au numérique, et donc on n'a plus besoin d'arbres pour fabriquer des papiers. Donc, les arbres sont inutiles.
Alors, je sais pas si tu sais, mais le foot peut être écolo, c'est difficile à croire. Hein.
Depuis quand ?
Eh ben, depuis que le club de Ronaldo et Roberto Carlos, alors ça te parle pas, hein.
Ouais, non, c'est qui, ouais.
Eh ben, en tout cas, il faut savoir que ils ont lancé une grande opération qui s'appelle Jouons pour l'environnement. Donc, sans arbres plantés à chaque match, joué, c'est pas mal, et sans autres plantés à chaque but inscrit. Ouais, ça pourrait partir d'une bonne idée, juste qu'on vous rappelle que pour arroser une pelouse de foot comme de rugby, c'est des litres d'eau, souvent elles sont chauffées, donc c'est des petits gestes face à une dépense énergétique assez énorme.
Voilà, je vais vous parler du livre écolo, du livre électronique. Donc vous l'avez tous vu, notamment à l'occasion de la dernière parution du dernier salon du livre à Paris, on en a beaucoup parlé, on a fait une émission spéciale dans Scanu Info. Et là, il y a un nouvel argument pour le livre électronique, c'est un argument écologique qui est repris un peu par tous les technophiles du monde, tous ceux qui adorent les nouveautés technologiques. Et ça a fait réagir notamment les Amis de la Terre, qui ont lancé une campagne pour rappeler que c'est pas vrai, le livre numérique n'est pas écologique du tout. Alors, ils expliquent par exemple que les produits technologiques nécessitent l'extraction de minerais précieux, comme le coltan, le lithium ou d'autres. Ça permet d'accroître la durée de vie des batteries, d'augmenter leur rapidité, de pousser la miniaturisation à l'extrême, etc. De même, pour fabriquer certains condensateurs, notamment au Congo, on extrait du coltan du coltan, du coltan.
C'est des mines où les gens sont dans une situation d'exploitation assez terrible, au-delà de la pollution et de leur propre intoxication voilà, physique, et puis, ils sont surtout extrêmement exploités.
Ouais, en République démocratique du Congo, c'est en partie une des raisons de la guerre. Donc ça, notre consommation de livres électroniques et de téléphones portables, choses comme ça, a créé non seulement de la pollution environnementale, mais des guerres, hein, des véritables guerres. Et en République démocratique du Congo, c'est quand même terrible ce qui est arrivé. Alors cet avantage disparaît. Alors en plus, on nous évoque, on nous dit, mais bah, attendez, le livret électronique, il a une faible consommation, donc ça devrait avoir un impact très faible sur l'environnement. Sauf que ça disparaît si on en produit beaucoup déjà, ou la faible consommation de beaucoup de trucs, ça fait une grosse consommation. Et puis surtout, on oublie de dire un truc, c'est que la plus grosse consommation du livre électronique, c'est lors de sa fabrication. Alors, ils ont calculé qu'en fait, pour amortir c'est un site qui s'appelle Carbon 4 qui fait ça, il faut une quinzaine d'années d'utilisation pour amortir le bilan carbone du livre électronique en comparaison de 15 ans d'achat de livres. Sauf que, on sait tous, un livre électronique, c'est comme tout composant aujourd'hui technologique, ça dure 2-3 ans au maximum, voire quelques mois pour certains. Donc, c'est une aberration écologique. Alors là aussi, la réaction des Amis de la Terre a fait réagir Claude Allègre. Alors moi, j'ai été fait un spécial Claude Allègre aujourd'hui, qui a tout immédiatement réagi à cette info en rappelant que depuis l'histoire de l'humanité, toutes les inventions avaient été bénéfiques à l'humanité, toutes. Et il a rappelé donc que pour lui, le livre électronique permettra une réelle amélioration de la qualité de vie des êtres humains. D'ailleurs, il a rappelé au passage que ces livres étaient déjà numérisés, c'est peut-être pour ça en fait le truc.
Annonce emploi. Monsieur Hortefeux lance le recrutement de nouveaux inspecteurs des fraudes au non-respect des normes auvergnates en vigueur. Selon la nouvelle directive, tout bon français doit avoir au moins 3 produits auvergnats dans son frigo. Le Saint-Nectaire bien fait compte pour 2. Envoyez CV, photos et ADN au ministère de la France occupée.
Voilà, un petit mot sur une actualité écologique presque lyonnaise. C'est dans la Drôme, c'est pas loin de chez nous, sur le site nucléaire du Tricastin.
Tu vois large, toi, le Grand Lyon, quand même.
Ouais, mais c'est
ils vont être contents, nos amis drômois.
Le jour où le site nucléaire du Tricastin pète, on l'a en pleine gueule.
On l'a jusqu'ici, ouais. C'est bien
voilà.
Clair.
Donc voilà, c'est pour ça que c'est quand même proche de chez nous. Le nucléaire, tout est proche finalement, parce qu'il y en a partout. Donc une anomalie de remplissage a été détectée samedi dernier dans un atelier d'enrichissement de l'uranium sur le site donc de Tricastin dans la Drôme. Areva nous annonce qu'il n'y a aucune conséquence pour le personnel et l'environnement. Ça nous rassure, ils étaient en train de transférer de l'hexafluorure d'uranium qui permet donc d'enrichir l'uranium. Donc on part de l'uranium normal et on l'enrichit pour en faire des bombes atomiques ou du combustible nucléaire pour les centrales, ce qui est le cas d'ailleurs ici, hein, c'est plutôt pour le combustible nucléaire. Donc ils ont bugué, on nous dit que sur les accidents, l'échelle des accidents nucléaires hein, qui vont de 0 à 7, c'est classé 1. Voilà. On rappelle quand même qu'à l'occasion, Areva a rappelé que c'était pas si important que ça, que le nucléaire était bon à la santé, que des petites doses journalières. Et ici, par exemple, pourquoi pas prendre une petite dose à la fin de chaque repas? Ça améliorerait les défenses unitaires de notre organisme, un peu de radioactivité, disent-ils. C'est d'ailleurs pour cette raison, on pourrait imaginer, qu'ils ont fait pression sur les politiques pour obtenir le fameux décret du 5 mai 2009. On rappelle que ce décret, paru au journal officiel, je vous donne toutes les infos comme ça vous pouvez vérifier que c'est vrai, paru au journal officiel du 14 mai 2009, qui autorise aujourd'hui certains déchets radioactifs à être incorporés dans les matériaux de construction. Donc quand vous ferez votre ciment, vous achèterez votre panneau de plâtre ou autre, il pourrait être légèrement radioactif, mais comme dit Areva, le nucléaire, c'est la vie.
Annonce emploi. Pour vente de gâteaux, recherche chômeur en fin de droit, stagiaire accepté. Condition, être disponible tous les dimanches de 9h à 20h. Travail possible en soirée. Si vous souhaitez être exploité, contactez Anne P. MEDEF, machine à exploiter des entreprises de France.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu dans ce Canu Info, 1er avril 2010. Tout de suite, nous allons faire une nouvelle rubrique que nous n'avons encore jamais fait.
Une fois, avons déjà fait.
Oui, c'est vrai, une fois. C'est la deuxième. Attention, c'est la météo.
Météo nationale. Météo la capitale. Météo la capitale.
Voilà donc la météo de ce jeudi et de surtout de ce vendredi 2 avril 2010. Commençons par la région Rhône-Alpes où l'on signale toujours une tempête raciste nationaliste sur la région et notamment sur la ville de Lyon. L'équipe météo de Radio Canu vous conseille de sortir couvert et à plusieurs, surtout dans les quartiers Croix-Rousse et Saint-Jean où des coups de vent identitaires sont à prévoir. Poursuivons avec la région Loire-Atlantique dont on a parlé tout à l'heure où deux masses d'air continuent de s'affronter au-dessus de nos têtes. La masse nuageuse dépressionnaire, chrétienne, réactionnaire et passéiste semble néanmoins en perte de vitesse, submergée par les cumulonimbus civil métallique. Le temps risque d'être quand même assez perturbé, surtout au-dessus de Clisson et de sa région. Pour la région centre, tout va bien, le temps est assez calme et plutôt printanier. En Île-de-France et à Paris même, on notera un nouvel épisode météorologique violent avec une possible percée de bandes de nuages. Donc ce phénomène météorologique tout récent qui est que les nuages se déplacent aujourd'hui en bande organisée semble être pour l'instant réservé à la région parisienne. Le gouvernement étudie des solutions pour lutter contre ces bandes de nuages. Le mois d'avril étant propice au changement de temps, on notera que la Côte d'Azur et le Languedoc-Roussillon échapperont au giboulé. En effet, sur la côte méditerranée, c'est un véritable anticyclone frontiste qui s'est abattu sur la région. Le temps est actuellement très calme, la canicule très forte, et ses habitants se terrent afin d'échapper aux chaleurs et aux coups de soleil lepénistes fortement cancérigènes. Pour l'instant, Météo France n'annonce pas de véritable changement de temps. Il semble malheureusement que ce temps fasciste soit installé durablement sur la région PACA. Un temps assez semblable s'est installé en Languedoc-Roussillon où l'anticyclone sévit aussi. Cette fois-ci, c'est une version populiste, colonialiste, dite fraîchiste qui sévit. On conseillera à la population de ne pas se laisser submerger par cette vague de chaleur sous peine de déshydratation intellectuelle. Météo France n'annonce pas d'amélioration avant de nombreux jours. Pour les jours qui viennent, la France est toujours menacée par la tempête dite Petit Nicolas, qui a déjà fait de nombreuses victimes depuis 2007. Pas d'amélioration en vue avant 2012. Éphéméride, demain nous sommes donc le vendredi 2 avril, 92e jour de l'année. C'est vendredi saint pour les chrétiens. Pour les autres, vous pouvez boire, manger, baiser normalement. C'est permis. Le soleil se lève à 7h26, vous permettant d'aller travailler et enrichir votre patron, et se couchera à 20h22, mais vous n'êtes pas obligé de suivre la météo.
Nous, à vrai dire ici, on conseillerait même demain de faire tout plus, exprès, parce que c'est vendredi saint.
Quel bout d'entrain que j'ai eu tort, sacré déconneur, sacré déconneur, sacré déconneur.
Il est l'heure de l'agenda, puisqu'il reste 3 minutes avant de passer l'antenne à nos collègues de la bande Spartacus.
Oui, je te laisse commencer. Alors, qu'est-ce que t'as, toi? T'as des choses demain? Parce que moi, demain, j'ai quelque chose. Nous serons donc vendredi 2 avril. Ça se passera à l'atelier au 91 rue Montesquieu dans le 7e. Et c'est l'apéro de soutien à la Mathothèque dès 20h.
Voilà, moi, j'avais un truc ce soir aussi. À la Maison de l'écologie, ça a commencé depuis 10 minutes, mais le film devrait être projeté d'ici 5-10 minutes. La Maison de l'écologie, c'est 4 Baudins. C'est une soirée sur les médias alternatifs. Il y a un film et après un débat. Et puis on bouffe.
Bon, on y va surtout pour ça.
Ouais. Samedi, un rassemblement à 14h devant le consulat de Tunisie. C'est 14 avenue Foch dans le 6e arrondissement en soutien à Zayed qui est menacé d'expulsion par le ministre dont on a parlé tout à l'heure, des expulsions et des rafles de sans-papiers. C'est organisé par le RUF, le RUSF en fait, on dit plutôt Réseau Université Sans Frontières de Lyon. Moi je trouve ça bien russe. C'était difficile de dire. Bon, voilà. C'est le 1er avril, on a le droit de prononcer les choses comme on veut. Dimanche 4 avril, Agis Ramassis, ça s'appelle. C'est en fait l'association, le collectif Agis, qui se réunit à la Friche RVI, avenue La Cassagne, à 18h. Donc vous pouvez aller les voir et les rencontrer. C'est dans la yourte, la salle rouge de la Friche.
Oui, et puis il me semble que tous les mercredis, il se passe quelque chose à la Friche.
Ouais, 14h, Friche RVI, donc avenue La Cassagne. Ils font visiter la Friche. Profitez-en si vous y êtes jamais allé, c'est à voir.
Et puis on vous conseille toujours la pièce « À la tombée de la nuit » mise en scène par Gilles Chavassieux au Théâtre des Ateliers, c'est rue du Petit David dans le 2e et c'est jusqu'au 4 avril.
Et oui, tout à fait, c'est de Peter Turini la pièce. Et ben moi je crois que j'ai tout ce que j'ai à dire aujourd'hui.
Et ben voilà,
voilà.
Ça c'est fait.
Alors juste
comme on dit.
On annonce pas ce samedi, mais le samedi d'après, on en parlera la semaine prochaine, à 15h, place Bellecour, une manif contre l'extrême droite, contre le racisme et contre la haine. Donc on sera le samedi 10 avril. Et puis plus tard, à 17h, vous pourrez aller au Cédrat ce jour-là, voir et entendre parler de Proudhon, l'enfant terrible du socialisme, organisé donc par le Cédrat et Daniel Colson.
Et juste avant toute la matinée, en tout cas jusqu'en début d'après-midi, vous pourrez profiter du repas de quartier de Tiens-Mont-la-Pente et son espace de gratuité.
Bon, tout place ça, Colbert. C'est samedi 10 avril,
on attend de voir. Journée.
On va vous laisser la place à la bande Spartacus.
On dit vous, parce qu'on le voit maintenant, il est tout seul alors.
Ah ouais, c'est vrai, ils sont où les autres?
Monsieur, nous vous laissons donc la place.
D'ailleurs, la bande Spartacus qui a un nouvel auditeur, Noam, depuis deux jours.
On le salue.
On le salue. Et tout de suite, pour faire la jonction entre les deux émissions, un petit jingle pour vous rappeler que le samedi 10, il y a des choses à faire. Bye.
J'éprouve depuis mon plus jeune âge la fierté indicible.
Alors que le gouvernement développe tranquillement son nationalisme.
D'appartenir à une grande, à une belle nation, la France.
Alors que la droite décomplexée assume son racisme.
Non à l'immigration des étrangers en France.
Et que des figures médiatiques enfoncent le clou.
Ce foulard, ce voile, ce niqab, tout ce qu'on veut. C'est le refus de la civilisation française.
Les petits soldats d'extrême droite se sentent pousser des ailes et défendent leurs idées par la violence sur le terrain.
À Lyon, 300 personnes s'étaient réunies pour protester contre la venue du ministre Éric Besson. Ils ont été pris à partie par une trentaine de jeunes d'extrême droite venus en découdre. Bilan des échauffourées, deux blessés.
Après l'attaque armée de rassemblements antiracistes et l'agression physique de militants antifascistes,
une trentaine de jeunes d'extrême droite venus en découdre.
Ne les laissons plus faire. Tous ensemble, ripostons. C'est en construisant un front unitaire que nous pourrons mettre fin à ces actions racistes et haineuses et à leur propagation. Manifestation unitaire contre l'extrême droite et la haine. Samedi 10 avril, 15h, Bellecour. Pas de fachos dans les quartiers, pas de quartier pour les fachos. Manifestation unitaire contre l'extrême droite et la haine. Samedi 10 avril, 15h, Bellecour.